L'avantage sur les autres récits bibliques, d'une part en tant que récit symbolique, elle donne lieu à de multiples interprétations et celle-ci en a fait l'objet de nombreuses, et d'autre part, elles obligent le lecteur à entrer en scène en s'identifiant à l'un des personnages. Je ne doute pas que la parabole que nous venons de proclamer ait produit cet effet sur vous, et je pense même, très probablement, que vous vous êtes rangé aux côtés des ouvriers de la première heure, en pensant tout de même que le propriétaire du domaine viticole a un sens de la justice un peu arbitraire. En effet, donner le même salaire pour une heure de travail ou pour une journée pose problème. Notre réaction peut s'expliquer par la conception de la justice qui est ancrée en nous et qui repose sur un principe d'équivalence entre une prestation fournie et une rémunération en proportion. Nous sommes payés à l'heure, ou au mois, ceux qui travaillent encore. Quand on est à la retraite, on est payé au mois, en fonction du temps de travail. Cela a longtemps fonctionné ainsi jusqu'à ce qu'on invente les allocations familiales ou les allocations de chômage. Jadis, si nous étions insolvables en raison d'un décès, d'un handicap, de la famine, des œuvres ou associations charitables palliaient à nos manques de ressources. Combien de congrégations, surtout féminines, ont assumé cette fonction, cette suppléance, si je puis dire? Cela montre bien que la stricte justice ne résout pas tout. La Bible n'ignore pas cette conception de la justice, mais elle en propose une autre. Pour éviter de choquer leur auditoire, certains prédicateurs ou commentateurs s'en tirent en disant que le propriétaire représentant Dieu, et que Dieu est juste, celui-ci donne toujours plus que nous ne méritons. C'est-à-dire qu'en fait, le denier, même si vous n'avez fait qu'une heure ou si vous avez fait une journée, c'est complètement disproportionné avec ce que vous méritiez. Mais la Bible, surtout chez les prophètes, mentionne une autre conception de la justice. La justice ne consiste pas à rendre à quelqu'un ce qu'on lui doit, mais à lui donner ce dont il a absolument besoin pour exister et vivre dignement. La justice, comme pour nous, se définit par rapport au droit. Alors que pour nous, le droit est d'abord une notion sociale qui régit le vivre ensemble, le droit dans la Bible est au contraire une notion personnelle. C'est le besoin de quiconque d'exister et de vivre correctement. Le droit ne devient une affaire sociale que dans la mesure où chacun est invité à prendre soin des plus démunis et à entendre leurs cris. La justice dans la Bible consiste à entendre ces appels et à y répondre. De là vient que pour la Bible, le sujet de droit par excellence, c'est le pauvre, dont Dieu prend souvent la défense à travers les prophètes. C'est-à-dire celui qui n'a rien, qui ne peut rien apporter, ni à la société, ni à autrui, ni par son travail. Faire droit au pauvre, à celui qui n'a rien, c'est faire œuvre de justice et appliquer le droit. On voit bien alors que la justice ne consiste pas à rendre quelque chose, puisque précisément le pauvre, c'est celui qui n'a rien et qui ne peut rien donner. Lu dans cette perspective, notre parabole prend tout à fait une autre signification. Le denier promis en échange du travail correspond en fait à un salaire modeste pour l'époque, une sorte de SMIC ou de RMI permettant à une famille modeste de subsister. Ainsi, le maître du domaine rémunère ses ouvriers non pas en fonction du travail qu'ils ont fourni, mais en fonction des exigences de la justice qu'on trouve dans la Bible, à savoir de permettre à quelqu'un de vivre dignement. Comme le maître symbolise Dieu dans cette parabole, on peut affirmer que Dieu est juste au sens biblique du terme. Est-ce qu'on peut en dire autant de nous? Est-ce que nous sommes justes? Envers Dieu, nous sommes toujours en dette. Dans une perspective d'équilibre et de rétribution, la justice de Dieu prend inévitablement la figure de la sanction. Car l'homme ne peut, même au prix de tous ses efforts, apporter à Dieu quoi que ce soit, de quoi il a droit. Et il est fatal que constamment il porte atteinte à ce droit de Dieu. Pour que justice soit faite, nous pensons d'une certaine façon que la dette du coupable doit être un moment lavée, acquittée, éradiquée. Tel est le visage que tant d'hommes prêtent spontanément à la justice de Dieu, un Dieu qui nous sanctionne. La démarche de la Bible ici proposée est toute différente. La justice de Dieu est gratuité, pure générosité. Mais cette gratuité n'est pas un étalage d'une richesse qui chercherait son emploi. Elle est l'invention d'une générosité qui cherche à aimer davantage, à combler plus profondément. Elle n'est pas la satisfaction accordée à nos mérites, la reconnaissance de droits capables à se faire valoir. En effet, quel homme peut se réclamer de droits vis-à-vis de Dieu ? Pour accueillir cette générosité de Dieu, il nous faut changer nos représentations sur Dieu, passer d'un Dieu rétributeur à un Dieu qui se donne gratuitement dans nos vies et dans nos communautés. Il faut passer d'un Dieu qui récompense et qui punit à un Dieu, au contraire, qui est largesse et gratuité. La Bible répète à satiété dans les psaumes ou le Deutéronome que Dieu comble celui qui respecte la loi de Dieu, que la piété et les bonnes œuvres sont récompensées et que les méchants et les impies sont punis. Si vous venez de temps en temps à l'office ici, vous entendrez ça dans les psaumes à répétition et le Deutéronome est un petit peu modulé autour de ce thème. C'est un peu la doctrine commune dans la Bible et dans les communautés chrétiennes, dans certaines, la fameuse rétribution qu'une certaine tradition a même étendue à notre destin post-mortem, ce que nous faisons sur la terre, même si nous n'avons pas la récompense sur la terre, nous l'aurons dans le ciel. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce principe est souvent pris en défaut. Nous connaissons tous des truands qui prospèrent et d'honnêtes gens qui connaissent les pires malheurs. Cette question traverse toute la Bible et atteint son paroxysme dans le livre de Job et dans le psaume 73. Aujourd'hui, on l'entend même dans la bouche de braves gens à qui il arrive des malheurs, vraiment immérités, qui disent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ce qui m'arrive ?» Cette expression trahit encore un fonctionnement de Dieu sur le modèle de la rétribution, comme si, en quelque sorte, les malheurs qui nous arrivent étaient un châtiment de Dieu, ou si les récompenses ou les richesses que nous avons étaient un don que Dieu nous fait en fonction de nos mérites. L'évangile de ce jour nous présente un Dieu qui donne gratuitement et qui nous invite à entrer dans cette gratuité, comme le disait le prophète Isaïe dans la première lecture, à changer nos pensées parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu ou les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Je voudrais terminer en vous citant un texte bref et qui est dans la Bible. À nous aussi, je crois que la question de Satan, que Satan pose à Dieu au sujet de Job, nous est adressée. Est-ce pour rien que Job t'aime ? Est-ce pour rien que nous aimons Dieu qui nous aime gratuitement ? Amen.